France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dernier jour en Vendée pour les carnets de campagne. Et aujourd'hui, nous parlons d'un travail de mémoire très important dans ce département. Se souvenir de la tempête Xynthia et surtout transmettre les détails de cet événement. Ensuite, je vous emmène dans un jardin extraordinaire, mais sans le canard qui parle anglais. Le potager extraordinaire est un parc à thème sur le thème des plantes à La Roche-sur-Yon. Du gai savoir maraîcher. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Raconter un traumatisme, le transmettre est parfois une bonne manière de s'en remettre ou en tout cas de le dépasser. Une association vendéenne s'est lancée dans un vaste projet de recueil de témoignages, de vidéos et de photos autour de la tempête Xynthia. Il y a 14 ans, en février 2010, cette tempête a provoqué la mort de 53 personnes, la plupart sur la petite commune de La Faute-sur-Mer, on s'en souvient. Bonjour Yann Le Borgne.
Bonjour.
Vous êtes géographe et initiateur de ce projet baptisé Submersion et Résilience, la mémoire de Xynthia. Alors parlez-nous d'abord de l'association Chronos à laquelle vous appartenez. On y trouve des historiens, des géographes, des psychiatres, des archéologues. Elle regroupe des personnes au profil très varié. Quelle est sa raison d'être ?
Alors sa raison d'être, c'est de faire en sorte que le patrimoine culturel soit aussi un levier, soit pas seulement un objet culturel, mais aussi un levier pour répondre à des enjeux de notre temps, notamment pour ce qui concerne la relation et notre rapport à l'environnement et au milieu naturel.
Et pourquoi ce nom, Chronos ? C'est une référence au dieu grec ?
Tout à fait, à cette divinité qui dévorait ses enfants. Bien sûr, c'est l'inverse de l'enjeu qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, hein, qui est au contraire de faire en sorte qu'on laisse un monde viable à nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Et donc, l'enjeu de notre société, c'est de ne pas manger ses enfants, de ne pas hypothéquer son avenir. Et donc, le patrimoine culturel peut être un levier pour justement participer du développement durable.
Alors, comment est née cette idée de récolter des témoignages autour de la tempête Xynthia ?
Alors, en 2010, donc il y a eu la tempête Xynthia. En 2019, je suis arrivé en Vendée. Et février 2020, il y a eu une importante médiatisation du 10e anniversaire de la tempête. Et j'étais surpris, en fait, de cette médiatisation, de cette intensité de médiatisation. Et j'ai compris, en fait, en discutant autour de moi, que Xynthia était un vrai traumatisme à l'échelle du littoral de la Vendée et de la Charente-Maritime, que la parole avait encore du mal à s'exprimer au sujet de cet événement. Il y avait une commémoration, certes, parce qu'il y avait de la douleur qui était toujours présente. Et j'ai eu le sentiment très rapidement qu'on ne savait pas comment faire avec ce traumatisme. Il y a bien sûr des plans de prévention des risques, de submersion, il y a des sensibilisations qui sont engagées sur le littoral pour prévenir la population. Il y a eu tout un tas de dispositifs, hein, qui ont germé après Xynthia, mais la prise en charge de cette mémoire et de cette mémoire traumatique, ben, en fin de compte, on n'avait pas le savoir-faire pour l'aborder. Alors que c'est un enjeu important, non seulement pour surmonter justement le traumatisme, c'est-à-dire verbaliser, et puis aussi se servir de cette mémoire vivante pour prévenir les populations littorales du risque de submersion qui est inhérent à la vie sur le littoral.
Cette idée de surmonter un traumatisme, ça renvoie souvent à quelque chose de très intime, hein, de très personnel. Vous avez, vous, une approche collective de cette idée ?
Les deux. Une enquête se passe en allant... Alors d'abord, vous faites un appel à participation, vous diffusez l'appel à participation largement sur tout le territoire, et puis ensuite, vous allez être contacté par des personnes au profil extrêmement divers, des secouristes, des pompiers, des habitants qui ont vécu la submersion ou des gens de leur famille, et chacun a une expérience à dire. Et donc, on accueille cette expérience-là. Alors, sous toutes ses formes, hein, ça peut être le témoignage oral, ça peut être de la photographie, ça peut être des objets. Et ensuite, à nous de faire en sorte que l'expérience de chacun soit capitalisé au service de l'enseignement du collectif.
Voilà, vous êtes en train de récolter donc ces témoignages, ces vidéos, ces photos. Vous parliez d'objets tout à l'heure. Il y a des objets qui peuvent raconter la tempête.
Oui. Au début du mois de mars, j'étais à La Faute-sur-Mer. Chaque année, il y a une commémoration en hommage aux victimes de Xynthia. Et une dame vient me voir et puis elle me dit « J'ai bien entendu que vous cherchiez des témoignages. » Et je voulais vous dire qu'il y a un objet que j'ai gardé de ma maison qui a été détruite. C'est un réveil. Et le réveil, il est encore à l'heure à laquelle il a été submergé, 4h du matin. Et elle me dit, il y a même encore du sable dessus. Une des seules choses qu'elle a gardées de sa maison, précieusement, c'est ce réveil. Un réveil, ça veut dire beaucoup de choses. Mmh. Et là, en l'occurrence, dans le contexte d'un tel événement, de s'être réveillé et de, j'allais dire, de nous conduire aussi, nous aussi, au bord de l'eau aujourd'hui, à nous réveiller des risques qui pèsent sur notre quotidien, à vivre aussi près de l'océan, c'est important. Donc c'est un projet mémoriel, mais c'est aussi un projet qui doit nous permettre aussi de nous réveiller en nous disant que vivre au bord de la mer, ce n'est pas uniquement vivre auprès d'un beau paysage, c'est vivre aussi auprès d'un élément qui est d'une force incroyable et qui n'offre pas le visage des beaux jours tout le temps.
Que vont devenir ensuite les objets, les récits et les images que vous aurez récoltés ?
Alors, il y a évidemment tout un travail d'analyse qui va être réalisé, d'études, et puis aussi un travail de valorisation, puisque l'idée, c'est bien sûr de faire quelque chose de ces témoignages en vue de les transmettre. Transmettre de plusieurs manières, hein. Vous avez une transmission sous une forme numérique, à travers un portail documentaire, à travers pourquoi pas un musée numérique de la mémoire de Xynthia, et puis vous allez aussi avoir des valorisations in situ, par exemple des QR codes à poser à côté des repères de submersion Xynthia. Comment rendre mieux visibles les repères de submersion, comment les adosser à un vécu. Vous pouvez avoir des créations artistiques hein, autour de justement de cette valorisation in situ, des expositions itinérantes. Ça peut être aussi créer un réseau d'ambassadeurs du projet sur le territoire pour transmettre la mémoire de la submersion et faire en sorte que les touristes ou les nouveaux résidents qui vivent sur le littoral soient avertis et qu'ils développent à partir de cette transmission de mémoire, une véritable culture du risque de submersion.
Submersion et résilience, la mémoire de Xynthia. C'est un projet donc porté par l'association Chronos au Sable d'Olonne. Merci beaucoup Yann Le Borgne.
Merci.
Bonne
merci
journée,
beaucoup.
Au revoir.
Merci à vous aussi, au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Nous n'avons pas l'habitude de parler de parcs d'attractions dans cette émission, mais celui-ci mérite une page de nos carnets. Le potager extraordinaire à La Roche-sur-Yon, un parc à thème qui vient de rouvrir ses portes car il est fermé en hiver. Et c'est la deuxième saison qui démarre. Bonjour Laura Pitassi.
Bonjour Dorothée, bonjour.
Vous êtes la responsable animation de ce potager extraordinaire. Alors quel est votre public cible, dites-moi ? Est-ce que c'est les enfants, les familles ou alors les gens qui cultivent des légumes chez eux ? Ou alors les deux peut-être ?
Eh bien, tout ce que vous venez de nommer, donc ce sont les enfants, le public familial et les jardiniers amateurs. Donc, effectivement, on s'adresse à tous ces publics, vraiment des gens qui sont avertis, mais aussi des gens qui ont envie de découvrir l'univers du potager et qui s'y connaissent pas encore.
C'est un parc de 7 hectares. Est-ce que vous pourriez nous le décrire, s'il vous plaît ?
Donc, c'est un parc avec plusieurs jardins potagers thématiques, plusieurs espaces que les visiteurs peuvent découvrir au fil des saisons. Donc, on a, par exemple, le potager exotique qui ouvre le 1er juillet avec le nouvel espace La vie érotique du potager, également ouvert à partir du 1er juillet, et les espaces thématiques qui sont d'ores et déjà ouverts. Donc, je cite particulièrement notre Bizarre Tom, qui est un espace très particulier, un jardin qui sort un peu de l'ordinaire justement, qui présente une collection de 500 plantes insolites, bizarres et curieuses, et également notre bibliothèque potagère avec une collection incroyable, extraordinaire justement, de 1000 plantes alimentaires qui sont présentées à nos visiteurs.
Voilà, le bizarretum, très joli nom. C'est un arboretum de plantes bizarres, hein, c'est ça?
C'est ça, exactement. Avec la particularité qu'on sort un peu de l'univers du potager, ce sont des plantes pas toutes comestibles, mais elles ont toute une particularité, une curiosité végétale à découvrir. Par exemple, je peux citer nos plantes géantes, un petit clin d'œil aussi au concours national qu'on organise tous les ans depuis près de 30 ans, le concours national des fruits et légumes géants qui se déroule tous les ans au Potager Extraordinaire. C'est le seul site en France homologué, certifié pour organiser cette pesée extraordinaire de ces fruits et légumes géants. Et cette année, il va se dérouler le 29 septembre.
Quelques records à battre pour qu'on prenne la mesure de l'événement ?
Ah oui, bien sûr. Donc, le record français du potiron géant a été battu en 2022 par Mehdi Dao. C'est un de nos compétiteurs acharnés qui participe tous les ans avec un potiron, imaginé de 928 kilos. On espère que cette année, en 2024, on va pouvoir dépasser la tonne.
C'est comestible, un potiron de 900 kilos ?
Tout à fait. Il est comestible, il faut juste savoir que c'est pas très très bon en goût. Il contient beaucoup d'eau, donc c'est un potiron qui est bon pour la soupe, on va dire.
Alors vous proposez des ateliers, des visites thématiques, des espaces ludiques, et puis vous le disiez, hein, c'est la vie érotique des plantes qui vous intéresse en particulier cette année.
C'est là que tout se passe, donc c'est la sexualité des plantes, c'est le cœur de notre métier, de ce qu'on met en musique dans nos potagers thématiques. Donc effectivement, à partir du 1er juillet, les visiteurs pourront découvrir ce nouvel espace, la vie érotique du potager, pour en savoir plus, pour comprendre mieux la sexualité, donc cette face cachée du végétal, la sexualité des plantes, comment aider cette vie sexuelle du végétal. Et aussi, c'est l'occasion pour nous de mettre l'accent sur nos actions de conservation, puisque le potager extraordinaire est aussi un conservatoire. Nous conservons 3000 variétés de graines de plantes alimentaires différentes, ce qui représente à peu près 8000 sachets de graines dans notre grainerie. Donc c'est l'occasion pour nous, dans ce nouvel espace, de présenter aux visiteurs ces actions de conservation que nous menons avec plusieurs acteurs, donc des propriétaires de domaines, de châteaux, des agriculteurs et aussi des entreprises.
Et dites-moi Laura, qu'est-ce qu'un tunnel de gourde ?
Eh bien, il s'agit d'une serre d'à peu près 400 mètres carrés où nous présentons cette collection incroyable et unique, la dernière que les visiteurs peuvent observer, admirer en France. Une collection de 16 variétés de gourdes lagenaria, de formes et couleurs différentes. Elles seront plantées d'ici quelques jours et elles vont pousser sous les yeux des visiteurs tout au long de la saison, jusqu'à être absolument foisonnantes à la fin de la saison, avec un plafond qui va rassembler un magasin de luminaires.
Voilà, la lagenaria, c'est une courge qui a vraiment une forme de gourde, hein. Et on se promène donc sous les gourdes dans votre serre.
Exactement, exactement. Donc le plafond, on va les faire monter au plafond. Elles vont pendouiller au plafond avec ces formes, ces couleurs différentes. C'est une histoire qui est vraiment liée à celle des hommes. Les hommes ont toujours utilisé des gourdes pour des utilisations diverses et variées. Alors la toute première, bien sûr, comme le nom l'indique, comme gourde, hein, pour transporter de l'eau et des boissons, mais aussi pour en faire des instruments de musique, des ustensiles de cuisine. Donc nous, on aborde dans notre tunnel, lors des visites commentées, toute cette partie un peu anthropologique, on va dire.
Voilà, de la connaissance végétale et joyeuse. C'est le potager extraordinaire à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Merci beaucoup, Laura Pitassi.
Merci Dorothée, merci à tous.
Et bonne journée, au revoir.
Merci.